France Musique.
France Musique.
France Musique.
Vous allez là.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi France Musique pour accompagner votre après-midi. Je suis ravie de vous retrouver, d'accueillir un invité prestigieux, le pianiste François-Frédéric Guy. Bonjour François-Frédéric Guy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Vous nous préparez quelque chose de tout à fait exceptionnel. Dans quelques jours, samedi 18 janvier, vous allez donner avec l'Orchestre de Chambre de Paris les 5 concertos de Beethoven en une seule soirée de concert. C'est un véritable exploit et ça n'est pas la première fois que vous réalisez ce genre de performance, il me semble.
Oui, mais ce n'est pas pour le plaisir de la performance, comme vous pouvez vous en douter, mais c'est plutôt toujours cette idée d'emmener le public avec moi dans une grande traversée, une grande croisière beethovenienne, puisqu'on fête le 250e anniversaire, ça ne vous a pas échappé. Et voilà, sur une soirée, de pouvoir entendre ce corpus absolument extraordinaire des 5 concertos pour piano de Beethoven, qui compte parmi évidemment les piliers de la littérature de piano et de la littérature musicale en général, ben, je pense que c'est une expérience inoubliable. Non, évidemment, un vrai défi. Pas.
C'est un vrai défi. Vous préparez depuis quand?
Oui, ce marathon pianistique. Oui, plusieurs semaines, évidemment, entrecoupées de mille et une autres choses. C'est ce qui est difficile et en même temps exaltant. Mais là, nous avons commencé les répétitions hier avec l'Orchestre de Chambre de Paris, que je connais bien. J'ai dirigé du piano de nombreuses fois ces dernières années. Et avec lequel nous avons déjà fait ce voyage intégral en une soirée au Festival Berlioz. C'était en 2015. Et je me souviens, c'était aussi un anniversaire, c'était le retour des 100 jours de Napoléon, retour de l'île d'Elbe, qui était passé non loin de la côte Saint-André. Alors nous avions fêté ça avec cette apothéose du concerto empereur, après évidemment avoir joué les 4 autres.
Évidemment. Vous avez des prédécesseurs, est-ce qu'il y a d'autres pianistes qui ont joué les 5 concertos en une seule soirée?
Alors ça, je ne sais pas. Je sais en revanche que cette année, j'ai vu que Christian Zimmermann, l'immense artiste que je respecte, vénère entre tous les pianistes, va donner ses concertos, alors il le fait avec chef, au Concertgebouw d'Amsterdam en une seule soirée. Aussi cette idée d'un voyage intégral. Et bien sûr, c'est un défi physique, intellectuel, mais encore une fois aussi un plaisir aussi égoïste. Parce que c'est évidemment le plaisir, comme je disais, d'emmener le public avec moi, mais aussi pour moi de faire cette quête, ce voyage vers un absolu beethovenien, et puis de m'émerveiller à chaque fois à nouveau de ce prodige, de cette évolution dans le genre concertant qui est vraiment unique.
Et vous savez, le genre de performance, ça me fait un peu penser à ce grand concert donné par Beethoven. C'était le 22 décembre 1808 au Théâtre an der Wien.
Oui, absolument.
Beethoven dirigeait des œuvres, il jouait. Et c'est un concert qui a duré plus de 4 heures.
Oui, un programme fou.
Un programme complètement fou. La création de la 6e symphonie.
Voilà, il y avait la 5e, la 6e, il y avait le 4e concerto,
absolument.
La fantaisie chorale.
Oui.
Un air de concert, si je me souviens bien. Et je le sais d'autant plus que j'ai participé à une reconstitution de ce concert il y a quelques années. Et donc je jouais seulement entre guillemets la fantaisie chorale et le 4e concerto. C'était déjà quand même vrai.
C'est déjà
évidemment
costaud.
J'ai vu pour le chef, c'était un exploit sans pareil. C'était Günther Herbisch, un très immense chef allemand. Et je me souviens que c'était vraiment, oui, un exploit sans pareil.
Allez, on va vous écouter jouer et diriger du clavier. François-Frédéric Guy, vous voici dans le final du 3e concerto de Beethoven.
Thank you.
Thank you.
Quelle énergie. C'était le rondo final, troisième mouvement du troisième concerto en do mineur de Beethoven, le Sinfonia Varsovia, dirigé du clavier par mon invité, François-Frédéric Guy, qui va jouer les cinq concertos en une soirée, samedi 18 janvier au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Alors ça se rapproche, François-Frédéric Guy, je vous sentais habité en écoutant ce
C'est une
ce
autre
final.
Manière de faire une répétition, en fait.
Hein. Tout à fait.
C'est la première fois que j'aurais écouté l'enregistrement depuis sa publication. Et bon, il y a une énergie.
Hein. Ah, il y a une vraie énergie, bon. Oui, c'est très vivant. C'est très
c'est vivant.
C'est rapide.
Mais alors, c'est rapide.
Parce que vous le pouvez.
Oui, c'est une petite blague, comme ça.
Mais est-ce qu'on vit en immersion totale avec la musique de Beethoven quand on prépare ce genre de marathon, ou au contraire, tout sauf Beethoven?
Ah non, vraiment, c'est l'immersion totale. Mais je dirais que, d'une manière générale, c'est pas seulement pour moi cette année, 2020, anniversaire. L'année dernière, j'ai presque joué autant d'œuvres de Beethoven que je vais en jouer en 2020. Et ce
pour
n'était
vous,
qu'en 2019.
Tous les ans, l'anniversaire Beethoven.
Oui, l'année dernière, il n'avait que 249 ans.
C'était déjà son anniversaire.
Oui, c'était déjà sa fête et son anniversaire. Et d'ailleurs, nous avions donné, je le rappelle, cet enregistrement est un enregistrement en public, tiré de deux concerts que nous avions donnés au Festival du Printemps des Arts de Monte-Carlo en mars 2019. Et nous avons réalisé donc l'enregistrement, et je pense qu'on entend cette vivacité. Et c'est ce qui m'intéresse dans le live. C'est pas la première fois que je publie des enregistrements live. J'avais déjà publié le deuxième concerto de Brahms il y a une quinzaine d'années, que j'avais joué au Royal Festival Hall de Londres avec le London Philharmonic Orchestra en 2001 ou 2003, je crois. Puis les 32 sonates,
les 32
quand même.
Sonates, hein,
qui sont aussi une série de concerts qui a été donnée à l'Arsenal de Metz dans les années 2010. Donc j'aime cette idée du live. Alors c'est un live où il y a quelques retouches de corriger quelques petites fausses notes ou de bruit, mais quand même, je tiens à le dire, il y a 90% c'est vraiment le
qui
concert.
Est dans l'élan.
C'est le concert qu'on a entendu. Donc voilà, et on ressent, et c'est cette énergie qui est difficile quand même à retrouver en studio. J'ai toujours du mal à avec la lampe, le moment où voilà, il faut y aller. Alors peut-être qu'il y a des artistes, on le dit souvent, hein, depuis que le disque existe, il y a des artistes de studio, des artistes de live. Et en studio, il faut être capable aussi, quelquefois, c'est aussi valable pour l'expression dans les mouvements lents. Quelquefois, en studio, on peut être un petit peu attentiste, chercher une espèce de plastique parfaite, mais qui finalement ne rend pas compte de la vérité musicale. Dans l'énergie du live, du concert en public, j'allais dire, le cerveau est stimulé, la créativité est stimulée. Mmh. C'est ça qui m'intéresse.
D'ailleurs, ces cinq concertos de Beethoven, vous les aviez déjà enregistrés il y a une dizaine d'années.
Oui.
Avec le Philharmonique de Radio France.
Exactement, dans cette maison.
Par Philippe Jordan, dans cette
maison.
Oui,
bien sûr.
Votre vision des choses a beaucoup changé, puisque là, en l'occurrence, c'était du studio pour le
coup. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup appris de cet enregistrement, et aussi, évidemment, de la collaboration avec Philippe Jordan, qui a été très intense après aussi l'enregistrement. On a joué de très nombreuses fois ensemble, encore récemment au Concerthaus de Vienne avec les Wiener Symphoniker. Et déjà Philippe Jordan à l'époque avait cette idée, non pas d'alléger à la française, c'est-à-dire alléger le propos, mais alléger un petit peu la texture pour rendre une lisibilité peut-être plus en trois dimensions et moins tirer les concertos vers le romantisme, plus montrer aussi l'héritage classique. Et justement, montrer à quel point Beethoven est à cette charnière incroyable. Il est vraiment, quand je dis l'alpha et l'oméga, souvent dans les interviews, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est le point où il y a un avant et un après. Et aussi pour le piano, bien sûr. Hein,
et ça se sent dans l'évolution de ces cinq concertos.
Voilà.
Le premier est complètement différent du
dernier. Les deux premiers ont été composés, et surtout, en fait, le premier composé est le numéro 2 dans l'ordre, dans la numérotation, mais ils ont été composés très jeunes. On voit, évidemment, on entend l'héritage Haydn-Mozart. Mais déjà, dans celui qu'on vient d'entendre, Beethoven prend le pouvoir définitivement.
Absolument.
Et puis, fait évoluer. Parce qu'il est stimulé par les nouveaux pianos, et lui-même, donc, du coup, demande des nouveaux... Il veut plus de notes. Dans le troisième concerto, il y a plus de notes sur le clavier que dans les deux premiers. Mm-hmm. Et puis, ça ne va cesser de s'amplifier jusqu'au concerto empereur, et bien sûr, jusqu'aux dernières sonates, où il y a, c'est quasiment le même clavier que ce qu'on connaît. Donc, voilà.
Et là, cette fois-ci, vous avez choisi de les diriger du clavier,
oui.
Ces cinq concertos. C'est une chose qui vous intéresse dans l'absolu, la direction d'orchestre?
Oui. C'était un vieux rêve d'adolescent d'être chef d'orchestre. D'ailleurs, j'ai vraiment failli bifurquer dans les années 90 et travailler la direction d'orchestre avec Cj vie aux Awa. Et finalement, je suis devenu pianiste, que je n'ai jamais regretté. Mais évidemment, ce genre de j'allais dire d'aspiration musicale ne disparaît pas du jour au lendemain. Et au contraire, je me suis dit, mais profitons du piano pour essayer de commencer à me rapprocher de l'orchestre à travers le jouet dirigé. C'est-à-dire que passer d'une position assise à une position debout avec d'abord quand même le piano qui reste un élément constitutif de ma personnalité.
Il y a des œuvres qui s'y prêtent.
Et oui, il faut toujours rappeler que les concertos de Beethoven, évidemment ceux de Mozart avant, ont été conçus et interprétés pour la première fois dans ces conditions en jouet dirigé. Et donc c'est aussi un retour à une authenticité. Ça apporte une cohésion, on redevient une grande famille qui fait de la musique de chambre. C'est aussi à nouveau un carrefour, la musique de chambre, le symphonique, le soliste. Mais il n'y a pas le soliste d'un côté et puis l'orchestre et le chef de l'autre. Je tiens quand même à préciser, parce qu'on parlait de cet enregistrement il y a une dizaine d'années avec Philippe Jordan, qui a été très très important pour moi, la collaboration, voire la confrontation avec un grand chef de la stature de Philippe, par exemple, peut évidemment produire des résultats aussi extrêmement stimulants et créatifs.
Et vous ne reniez pas ces enregistrements?
Non, pas du tout. Simplement, l'unicité de pensée et puis la jouissance de diriger de la première à la dernière note, la pensée musicale est quelque chose pour moi d'incomparable. C'est une expérience musicale que je veux poursuivre.
C'est un peu ce qui se passe quand on joue aussi les sonates de Beethoven. D'ailleurs, j'aimerais qu'on vous écoute dans une sonate, dans le premier mouvement de la 29e sonate, sonate Hammerklavier.
Oui.
Il me semble que vous connaissez très très bien cette œuvre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette musique?
C'est une œuvre emblématique de la dernière période de Beethoven, selon la classification de Franz Liszt, qui avait classé les sonates de l'adolescent, de l'homme et du dieu. Là, on est vraiment dans la période divine, bien que finalement, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup pour Beethoven, qui est le compositeur de l'homme, de l'humanité. Et c'est ça que le public ressent quand il écoute Beethoven. Mais enfin, cette dernière période où les aspirations spirituelles prennent le pas sur les préoccupations aussi de Beethoven pianiste, car les sonates étaient écrites pour lui, pour cette technique. Et évidemment, à cause de sa surdité, il s'est éloigné des scènes de concert et donc n'a plus joué que dans la sphère privée pour lui-même. Et à ce moment-là, ses aspirations ont été, c'était moins pour montrer ses capacités de virtuose, encore que la 29e sonate soit d'une virtuosité gigantesque, mais sur un autre plan que par exemple la Passionata ou la Waldstein, ou je cite les grandes sonates virtuoses, disons de la période médiane ou encore la Tempête. La Hammerklavier, c'est un monde sonore, c'est un univers inouï. C'est 45 minutes pour une sonate pour piano, ce qui n'est inconcevable à l'époque. Et d'ailleurs, même après, ça n'a été inégalé, même pas par les sonates de Brahms ou la grande sonate de Liszt. C'est aussi, finalement, l'aboutissement de la sonate classique. Car après, dans les trois dernières qui vont suivre, il ouvre de nouvelles perspectives plus romantiques et d'un style encore plus spirituel et désincarné quelquefois, notamment dans l'Arietta de l'opus 111. Mais dans la Hammerklavier, c'est une sonate classique mais poussée à l'extrême. On dirait que tous les paramètres sont décuplés. La longueur, la difficulté, le propos, la fugue, le mouvement lent qui fait 20 minutes, le premier mouvement qui est d'une difficulté technique extrême, et puis les oppositions de caractère. Il y a presque une brutalité, il y a des changements brusques, car il était comme ça, changements brusques de caractère. Thank you.
L'Allegro, premier mouvement de la 29e sonate, l'opus 106 de Beethoven, interprété par mon invité, François-Frédéric Guy. Elle est véritablement injouable, cette sonate, au sens littéral du terme, François-Frédéric Guy, non ?
Oui, d'ailleurs, j'ai entendu une fausse note vers la fin.
C'est vrai ?
Ça prouve que c'est
faudra dire au pianiste que...
mais non, c'est vrai que c'est difficile, hein. C'est extrême. Et c'est ça qu'il faut qu'on entende donc, quand on joue l'œuvre. Il ne faut pas dénaturer ce côté impossible. Dans tous les registres, les dynamiques, et ce qu'on disait tout à l'heure, les ruptures de caractère. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être capable de passer d'un coup, comme Beethoven était, hein, surtout vers la fin, quand il était un peu misanthrope, et qui, comme ça, il changeait brutalement d'idée ou de ton de conversation, et on l'entend, là. Il y a cette espèce de tension détente,
voilà,
hein, hors micro.
Il y a ces tempos, oui. Ces tempi impossibles à respecter, presque.
Ben oui, je crois que le métronome de Maelzel est noté à 138 à la blanche, qui est encore beaucoup plus vite que ce qu'on a entendu dans l'enregistrement là, mais et puis il y a ce fameux saut au début.
Voilà, hein. Dès le début.
Alors je me souviens quand j'étais plus jeune, je le jouais à une main comme c'est écrit avec la main gauche. Donc c'est un saut d'une double octave avec un accord qui doit être très rapide et très fort, très puissant. Et puis un jour je travaillais avec le fils d'Arthur Schnabel, Carl Ulrich Schnabel. Arthur Schnabel était le premier immense pianiste, le premier à enregistrer les sonates dans les années 30. Et son fils était un merveilleux pédagogue avec lequel j'ai eu la chance de travailler énormément. Et notamment cette sonate, plusieurs fois. Et un jour, il me voit, donc je joue la sonate pour lui, et puis il me voit jouer ce saut avec une main, bon, avec quand même un peu de difficulté, il faut se reconnaître. Moi, j'y avais mis tout mon cœur. Et puis il m'arrête, il me dit, il me dit en anglais, vous êtes un de ceux-là qui veut absolument jouer avec une main. Et il me regarde avec ses petits yeux sarcastiques, me disant, c'est bien, c'est magnifique d'oser, mais ça sonne très mal, en fait. Parce qu'on entend on entend ce saut, alors qu'en fait, c'est un coup de timbale, au début. Si c'était un timbalier qui jouait le début, il jouerait papam, avec les deux baguettes. Ces deux coups de timbale au tempo demandé par Beethoven au piano avec un saut de double octave, c'est impossible.
Donc
et
on
même
joue
les
avec
plus
les
grands virtuoses, j'ai même vu Zhuja Wang jouer merveilleusement cette sonate de manière extraordinaire. Mais le début, c'est plus lent parce que elle le fait avec une seule main. Alors on peut trouver le geste, ça je comprends ça intellectuellement, le geste magnifique, d'essayer de le faire, mais bon, voilà.
Le Von Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Je voulais vous demander, François-Frédéric Guy, pourquoi la musique de Beethoven, elle est si universelle à tel point que dans les conservatoires, pour un concours d'entrée, par exemple, chaque pianiste doit présenter une sonate de Beethoven.
Oui, alors on se pose toujours cette question. Je pense que c'est plusieurs facteurs combinés, et notamment d'abord une thématique relativement facile à retenir et pour le grand public. Je ne dirais pas que c'est de la pop musique avant l'heure, je dirais que c'est de la musique populaire. Et c'est-à-dire que les thèmes ne sont pas des thèmes compliqués, des thèmes où il faudrait vraiment réfléchir. Ils sont immédiatement accessibles comme plutôt des leitmotifs ou des refrains. Et donc, quand on entend « pam, 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 pam », voilà, tout est dit. Et bien sûr, l'œuvre de Beethoven ne se résume pas à ces quatre notes. Et il y a des sonates, notamment, on a entendu la Hammerklavier, où les thèmes sont beaucoup plus complexes. Mais il a réussi à traverser, à passer à la postérité, à être universellement adulé, on peut le dire, notamment, par exemple, dans les pays d'Extrême-Orient, parce que les œuvres emblématiques, et j'allais dire ces tubes, ont cette faculté d'avoir des thèmes
facilement mémorisables.
L'hymne à la joie, le thème la claire de lune, la pathétique, je pourrais en citer d'autres, le final de la tempête, la pastorale. C'est innombrable.
Ce côté populaire, accessible.
Populaire, accessible, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire populaire dans le sens on élève la population et non pas on cherche à faire une musique qu'elle pourrait juste immédiatement comprendre, j'allais dire, d'une manière basique. Là, c'est au contraire, on l'emmène quelque part, mais avec des mots, avec des notes simples, mais en même temps avec une complexité qui est cachée et qui fait que cette musique a un niveau si élevé, si spirituel. Vous savez qu'on joue plus de 100 fois au mois de novembre la 9e symphonie de Beethoven au Japon, tous les orchestres le jouent pendant un week-end. C'est quand même incroyable.
Mais les Japonais ont cette ferveur aussi.
Une ferveur, c'est-à-dire que pour eux, c'est vraiment une fête, quasiment une fête nationale. C'est vraiment les orchestres amateurs, les professionnels, on le joue partout au Japon. En même temps, simultanément quasiment. C'est vraiment une fête et ça, pour moi, ça dit tout.
Bah vous allez nous redonner le goût de Beethoven. On va vous écouter dans la 5e sonate pour violoncelle et piano. De la sonate en ré majeur pour violoncelle et piano de Beethoven, avec ce dernier mouvement sous forme de fugue joué par Xavier Philips au violoncelle et François-Frédéric Guy au piano. Mon invité, c'est un honneur de vous recevoir, vous qui êtes un grand spécialiste
faut pas exagérer
de la musique
plus,
de Beethoven. Bah si, vous avez presque tout enregistré. Et ouais, qu'est-ce qui vous reste en fait?
Non, il reste beaucoup de choses, mais j'ai enregistré les œuvres aussi plusieurs fois. Parce que j'avais déjà enregistré les sonates pour violoncelle avec Anne Gastinel il y a une vingtaine d'années. Et j'aime remettre les œuvres sur le métier, parce que voilà, c'est inépuisable, c'est riche. Et là, jouer ces œuvres avec Xavier Philips, qu'on a entendu, qui est tellement extraordinaire, et virtuosité fabuleuse, et en même temps intérieur. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour cette musique. Vous avez remarqué, c'est assez proche de la Hammer Clavier.
Mais oui, absolument. C'est vraiment, mais c'est aussi un peu pour ça que je l'ai choisi.
Oui, quasiment écrit en même temps. Et donc, il y a aussi cette rage, cette rugosité. Un petit peu. Alors, on parlait des thèmes un peu universels de Beethoven et faciles à écouter. Là, ce sont des œuvres un petit peu qui...
contre-exemple.
Un peu contre-exemple, mais qui sont quand même évidemment sublimes.
Et les transcriptions, vous y avez déjà pensé? Par exemple, les symphonies transcrites par liste?
Non, alors je les regarde chez moi quand je dirige les symphonies, parce que ça permet de... Voilà, comme pour un pianiste, c'est intéressant de... Mais jamais je ne les jouerai en public. D'ailleurs, elles n'ont pas été conçues pour être jouées, bien que maintenant les pianistes les jouent, mais elles ont été conçues comme des études pour les symphonies.
Et vous,
c'est
vous
que
dirigez...
c'est Liszt qui le disait lui-même.
Absolument. Et vous dirigez des orchestres maintenant.
Ça m'arrive.
Vous dirigez des orchestres sans piano, ben, attention.
Je vous promets, ça arrive.
Et vous dirigez les symphonies de Beethoven.
La 4e symphonie la semaine prochaine, mais à l'Arsenal de Metz d'ailleurs.
Et vous me parliez d'un projet Fidelio.
Oh,
également.
On a le temps d'en reparler. Oui, oui. Alors ça, c'est vraiment une folie, mais ça va bientôt arriver, oui. Je sais pas.
Le Van Beethoven, Aurélie Moreau, France Musique.
Thank you.
premier mouvement du 4e concerto pour piano en sol majeur de Beethoven, le Symphonie à Varsovia, dirigé du piano par François-Frédéric Guy. Elle est de qui cette cadence, François-Frédéric Guy ?
Incroyable, hein ?
Elle est incroyable.
C'est la cadence de Johannes Brahms, qui était un petit peu le fils spirituel de Beethoven,
oui.
En tout cas un de ses fils spirituels, et qu'il a vénéré à un point incroyable. Et il a fait cette cadence, et je crois que c'est une première en enregistrement. Ça n'a jamais été enregistré avant.
Et moi, je l'avais jamais entendu.
Presque sûr. Sur à 99%, disons. Et je trouve que ça vaut la peine de faire découvrir cette cadence au public.
Ah mais oui, quel plaisir.
C'est en même temps romantique, mais on disait hors micro que le concerto est aussi un petit peu d'essence romantique. Et la cadence de Beethoven, que j'avais enregistrée à l'époque avec Philippe Jordan et le Philharmonique de Radio France, est déjà romantique. Donc ça
oui,
a aussi ce sens.
Ça a du sens,
c'est une filiation.
Oui. Alors en quelques mots, vous êtes le parrain d'un grand week-end Beethoven qui se passe du 20 au 22 mars prochain à l'auditorium de la Maison de la Radio, où l'intégrale des sonates de Beethoven vont être
oui.
données. Vous avez sélectionné quelques jeunes pianistes pour les interpréter. Et comment vous les avez choisis?
Et oui, c'est difficile, et non pas parce que c'est difficile d'en trouver, mais justement parce qu'il y en a trop.
Mais oui.
Et oui, il y a une génération de jeunes pianistes actuellement entre 20 et 35 ans qui est vraiment absolument faramineuse, comme on n'en a pas eu depuis des années. C'est vraiment magnifique et un grand cru. Alors voilà, cette idée merveilleuse de partager ces 32 sonates avec cette jeune génération. Je ne peux pas tous les citer. Alexandre Kantorov,
Céline Mazary, Guillaume Bellum,
Jean-Paul Gasparian,
Natalia Milstein, Marussia Jantet. Voilà, on les a presque tous cités, je crois.
Exactement, Céline Mazary, on l'a dit aussi, qui jouera les variations Eroica. Donc, je crois qu'il vient de sortir un disque de ces variations, un très grand beethovenien actuel. Et voilà, ça va être une grande fête, hein, un grand week-end. Où
on sera en direct, d'ailleurs.
On sera en direct. Pour tout le festival, toute la durée du festival. Et je jouerai le premier et le dernier concert. J'encadrerai donc le premier concert avec la première sonate. Et accessoirement la hammerclavier. ça ne vous décevra pas, Aurélien. Et puis le dernier concert avec la 32e, donc l'opus 111.
Et là, on parlait de pianistes d'aujourd'hui. Quels sont les grands pianistes d'hier qui vous inspirent dans la musique de Beethoven?
On parlait tout à l'heure de Arthur Schnabel, le premier
qui a enregistré les 32 sonates.
Oui, je pourrais citer un de ses anciens élèves et qui a été aussi mon mentor, Léon Fleischer, dont pour moi l'intégrale des 5 concertos avec Georges Zell et le Cleveland Orchestra reste inégalable, inégalé. Mais aussi, bien sûr, les sonates. Plus récemment, Alfred Brendel, qui a fait 3 intégrales, hein, si on compte celle de Vox des années 50. Paulini, dans un tout autre style, parce qu'il a toujours ce côté un petit peu décapant, qui peut en irriter certains, mais qui, pour moi, a été un modèle. Surtout qu'il a couplé souvent les dernières sonates avec la musique de notre temps.
Oui. C'est quelque chose qui vous arrive aussi,
d'ailleurs. Ah oui, qui m'a marqué, vraiment, quand j'étais étudiant, et que j'ai voulu évidemment reproduire à mon modeste niveau. Mais voilà, ce sont quelques-uns des pianistes. Plus récemment, évidemment, on pourrait citer Lev Ovensness dans les concertos, Paul Lewis dans les sonates, pianiste anglais, voilà.
Thank you.
un extrait du troisième mouvement du deuxième concerto de Beethoven, François-Frédéric Guy au piano et à la direction du Symphonia Varsovia. Merci d'être passé nous voir, François-Frédéric Guy. Je rappelle que vous jouez les cinq concertos avec l'Orchestre de Chambre de Paris ce samedi 18 janvier. Ça se passe au Théâtre des Champs-Élysées. Ça commence à 19h, c'est
ça ? Absolument, et ça se finit très tard dans la nuit.
Merci à toute l'équipe du Van Beethoven, Cécile Bonnet-Desclostres, Pascal Baudin et Bruno Rioux-Maillard. Belle fin de journée et à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.